Ouais,
Bon, ben,
bonjour.
pour alors, peut-être voilà pour commencer pour 3 minutes par intervenant. Oui.
Non, moi c'est juste en fait j'avais déjà entendu parler du fait que, enfin je sais pas si c'est sur le dernier rapport du GIEC ou quoi, mais qu'en gros il disait qu'on avait passé le point de non-retour, qu'en fait même si maintenant on essayait de prendre des mesures pour empêcher le réchauffement climatique, on pourrait plus l'arrêter parce que genre c'était un phénomène qui justement s'entretenait, comme vous l'avez dit, avec notamment la fonte des glaces entre autres et l'albédo.
D'accord. Il y avait une autre main, un camarade qui voulait intervenir, voilà, ici.
Oui. Oui, je voulais intervenir. Bon, j'ai apprécié l'exposé, je vous rejoins tout à fait dans la critique du capitalisme, mais j'ai quand même un bémol sur la question du productivisme et de la décroissance, parce que, bon, moi, je suis abonné à 2 journaux décroissants, je suis abonné à Lutte ouvrière aussi. Et bon, j'ai rien vu de réactionnaire dans la décroissance. En fait, ils vivent pas comme des petits bourgeois, ils ont pas de voiture, ils ont pas la télé. Et c'est des anarchistes, hein. Ils sont anticapitalistes de manière virulente. Et moi, je trouve une autre raison de remettre en question le productivisme, c'est pas seulement la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi la question de l'épuisement des ressources. Et là, je voudrais vous signaler un livre qui s'appelle Quel futur pour les métaux, qui a été écrit par des ingénieurs et qui se réclame aussi de la décroissance. Et on va vers un épuisement des ressources et les capacités de, les possibilités de recyclage sont limitées parce qu'à chaque phase de recyclage, on perd de la matière, etc. Donc c'est aussi une autre raison de remettre en question le productivisme. Il faut faire en sorte que les générations futures puissent elles aussi vivre, avoir des bases matérielles pour vivre. Voilà.
D'autres intervenants, non? Bon, à ce moment-là, je repasse la parole à Jean-Michel Fontan pour répondre aux 2 interventions.
Salut. Donc d'abord, sur l'histoire du point de non-retour, oui, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté. C'est pas vraiment acté scientifiquement par le GIEC. Enfin, comme j'ai dit, le GIEC, c'est d'abord des compilateurs de toute la littérature scientifique. On l'entend beaucoup, il y a un danger, mais en fait on ne sait pas très bien cette question de point de non-retour. Il est où le point de non-retour dans les rapports du GIEC, où le caractère alarmiste il est un petit peu mis en avant? C'est quand même qu'on y arrive, mais on ne sait pas exactement où le situer. Bon, le chiffrage, c'est que si on ne veut pas que ça augmente de plus de 1,5 degré, ou disons 2 degrés, c'est le chiffre qui a été donné depuis la conférence de Copenhague, il faut faire ceci, cela. Donc limiter les gaz à effet de serre. En gros, il faut arriver à une stabilité du CO2 dans l'atmosphère d'ici 2100. Il faut qu'en 2100, le CO2 qui est rejeté par les hommes soit équivalent au CO2 absorbé par les océans et les forêts. Donc la stabilité carbone. Ça, c'est l'objectif fondamental à partir duquel ils font des... Bon. Alors après, il y a des phénomènes... cette histoire de point de non-retour, c'est beaucoup discuté à propos des phénomènes des emballements. Quand un glacier il est perdu. Il ne va pas se reconstituer comme ça. Il ne suffit pas de revenir un petit peu en arrière avec le curseur climatique, enfin température, pour que le glacier renaisse aussi. Ce n'est pas si simple. Et puis, il y a de grands mécanismes d'inertie. J'ai parlé de l'inertie du tapis roulant océanique, par exemple, qui met 1000 années à faire le tour complet. Il y a plein de phénomènes qui sont profondément inertiels dans le climat. Si on modifie quelque chose aujourd'hui, les effets ils se feront sentir, pour certains, dans un siècle. La molécule de CO2 émise aujourd'hui, elle va rester pendant un siècle dans l'atmosphère. Bon, enfin, à 50%. La moitié va se faire absorber, l'autre, celle qui va rester, c'est en moyenne un siècle quand même. Donc, c'est des effets à long terme qu'il est quand même difficile de modéliser de manière fine et précise. Il y a, dans cette question du point de non-retour, beaucoup plus de journalisme un peu fantastique là, que de véritables connaissances scientifiques. Donc on ne sait pas, il y a un danger, c'est incontestable. De toute manière, le point de non-retour, ça, en réalité, ça ne veut rien dire. Quand on regarde le passé de l'histoire du climat sur la Terre, que j'ai essayé d'évoquer un petit peu, il y a eu des allers-retours dans tous les sens. Hein, la mer qui était 100 mètres plus basse, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis des températures qui étaient 7-8 degrés plus importants qu'aujourd'hui, qui sont retombées. Rien qu'au Moyen-Âge, j'ai cité 2 périodes très particulières, le petit âge glaciaire, qui est arrivé vers 1700, etc., et puis l'optimum climatique médiéval, qui est arrivé avant, où il faisait plus chaud, enfin, pas plus chaud qu'aujourd'hui, en réalité, sauf sur certaines régions. Mais il faisait très chaud par rapport à toute la période des 10 000 ans qui l'entourent, sauf aujourd'hui. Donc, dire qu'il y a un point de non-retour, c'est plus pour alerter ceux qui disent ça, c'est pour faire peur, pour alerter. Il y a une certaine exagération quand même dans les scénarios, pas forcément de ceux du GIEC, mais dans ce que les journalistes ensuite en font. Et il y a une volonté aussi de mettre l'opinion en condition. Nous, on est inquiets parce qu'on est inquiets de l'irresponsabilité du capitalisme. Mais pour nous, le climat, c'est pas la mère des batailles, comme en font certains. Bon, c'est une bataille fondamentale qui va avoir des conséquences terribles si rien n'est fait. Bon, et le problème, c'est que si on doit agir, les effets se font sentir dans le bon sens, hein, cette fois-ci, parce que juste, l'humanité aura renversé le capitalisme, aura organisé une économie rationnelle où on planifiera en fonction des besoins de chacun. Ça ne sera pas du jour au lendemain de revenir en arrière. C'est en ce sens que c'est compliqué. Il suffit d'appuyer sur le bouton et hop, ça vient tout de suite. On appuie sur le bouton, on tourne le volant à gauche, mais la voiture elle tourne à gauche que 50 ans plus tard. Bon, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ça le fond du problème, c'est l'inertie dans cette question-là. Mais point de non-retour, ça ne veut rien dire en fait. Voilà. Alors... Alors, sur la deuxième question, sur le camarade qui met un bémol par rapport à notre critique du productivisme, mais qui reconnaît que, effectivement, le fond du problème, c'est le capitalisme. Oui, mais c'est deux discours politiques différents et contradictoires. Si tu ne le vois pas, c'est dommage. Continue à lire Lutte ouvrière et ton journal, essaye de bien comparer, mais c'est contradictoire. Les productivistes... Ce sont des gens qui, comme tu peux le dire, sont parfois des anarchistes. Oui, c'est comme les zadistes qui vont à Sivens, etc. Bon, c'est pas exactement nos combats. C'est un peu des Indiens, si on veut, mais des anarchistes, si tu préfères. Mais enfin, ils vivent pas en Somalie, ces gens-là. Hein. Bon, ils vivent pas dans le delta du Niger. Bon, où là, ils ont d'autres problèmes à régler. Bon, si tu remarques, dans le delta du Niger, ils ont des problèmes de pollution. Mais là où ils ont des problèmes de faim, d'approvisionnement en eau... ils ne sont pas pour la décroissance, ça ne veut rien dire pour eux. C'est des mots vides. C'est des mots vides. Alors, donc, comment dire, parfois on a l'impression de taper un peu sur le même clou par rapport à certains discours décroissants, c'est possible. Mais c'est la cohérence d'ensemble des idées qu'il faut regarder. Bon, parce que discuter juste que nous, on peut critiquer l'irrationalité dans l'organisation des transports, dans l'organisation de la production économique qui n'est pas faite par un recensement réel des besoins, qui est faite pour un marché aveugle et qui est faite pour qu'à court terme, les actionnaires ils soient contents et ils fassent leur 12% à la fin de l'année. Et c'est ça qui motive les choix économiques. Bon, ça, on peut peut-être taper sur le même clou avec un certain nombre d'autres personnes, d'accord. Mais la cohérence d'ensemble, ce n'est pas la même. Le marxisme, ça donne aussi une réponse à comment on fait pour changer les choses, comment on fait pour sortir du capitalisme. Pas juste dénoncer la décroissance, enfin dénoncer le productivisme ou certains aspects aberrants du capitalisme, mais le capitalisme, pour le renverser, il faut une force sociale pour ça. Il ne suffit pas de discours qui visent à sensibiliser l'opinion. Il y en a plein chez les écolos, des discours pour sensibiliser l'opinion. Bon. Mais il faut une force sociale. Et pour les marxistes, justement, la force du marxisme, ça a été de théoriser et de mettre en pratique hein, ce mouvement de la classe ouvrière. Comme force sociale capable de sortir du capitalisme. Parce que si on n'a pas ça, on va faire les zadistes au barrage de Sivens. Et alors, les capitalistes, ils s'en foutent de ça. Même les quelques dizaines d'agriculteurs, eux, ils s'en foutent peut-être pas. Mais les grands bourgeois, ils n'en ont rien à foutre des Indiens de Sivens. Là. C'est pas comme ça qu'on leur enlèvera le pouvoir à ces gens-là. Pour enlever le pouvoir à ceux qui contrôlent l'économie, il faut une organisation internationale de la classe ouvrière. Bon, ça, c'est le marxisme, ça, c'est le communisme, ça, c'est nos idées. Bon, il y a une différence, même si, bon, sur certains aspects secondaires, bon, voilà. Il y a un autre aspect dans ta question, là, à laquelle je n'ai pas répondu, c'est sur l'épuisement des ressources. Bon. Alors ça, nous, on en parle depuis longtemps, même c'était dans le cadre de Lutte ouvrière que la planète est menacée par l'épuisement des ressources. Mais enfin, ceci dit, là aussi, nos connaissances réelles sur ce qu'il y a à l'intérieur de la planète Terre, elles sont très limitées. Au moment du choc pétrolier, il était de bon temps, dans les années, fin des années 60, 70, de dire qu'il n'y avait plus de pétrole, que dans 20 ans, il n'y en aurait plus. Fini. Bon, et il fallait absolument trouver des alternatives au pétrole, etc. En réalité, toute cette campagne, elle servait à quoi ? À nous faire accepter l'augmentation du prix du pétrole qui était consécutive au premier choc pétrolier de 73. Mais aujourd'hui, on ne sait pas estimer, même avec les moyens scientifiques supérieurs des géologues de ceux de l'époque, on ne sait pas estimer les ressources pétrolières. Plus avec le gaz de schiste et avec les sables bitumineux qu'ils viennent de découvrir en Alberta, ils découvrent maintenant en Antarctique plein de nouveaux champs pétrolifères. Alors ils font n'importe quoi avec, ils saccagent la planète comme des porcs pour aller chercher ce truc-là. Ils font des marées noires à répétition. Bon, alors là, en Arctique, ça leur pose un problème parce que, bon, là, Total vient de décider de, oui, c'est Total, de finalement pas faire les forages qui étaient prévus parce que les campagnes d'écolo, il y en avait trop. Et puis, bon, il y a quelques accords internationaux quand même sur l'exploitation de l'Arctique et de l'Antarctique qu'il faut quand même essayer de respecter. Et puis surtout, il y a un retournement économique sur les prix qui fait que c'est moins rentable. Parce que c'est ça le fond du problème. Bon, parce que pour eux, dans la question de on n'exploite pas, c'est une question de rentabilité. Les gaz de schiste, c'est devenu rentable parce que les prix du pétrole avaient monté. Bon, là maintenant, c'est une rentabilité moyenne. Mais ces ressources-là, elles n'étaient pas quantifiées avant. Donc, dire qu'il y a potentiellement un épuisement des ressources, oui, que les ressources de la planète Terre sont limitées, on le sait bien. Et même la durée de vie du Soleil, elle est limitée. Mais nous, on ne peut pas raisonner à cette échelle-là, parce que là, c'est sur des centaines de millions d'années. Bon, en attendant, on va faire autre chose. Donc, l'épuisement des ressources, ce n'est pas pour centaines de millions d'années, je suis bien d'accord. Il y a surtout la manière dont ils s'y prennent, en expropriant les petits paysans dont c'est souvent la terre, c'est souvent la seule ressource pour vivre, en décapitant les montagnes pour aller chercher telle ou telle ressource minière, pour aller chercher les terres rares ailleurs, etc. C'est la manière dont ils s'y prennent et le mépris absolu pour les populations et pour les pollutions qu'ils engendrent. Ça, on peut le dénoncer. Mais faire, construire tout notre combat politique autour de l'épuisement des ressources, c'est-à-dire on va alerter les gens pour qu'ils prennent conscience qu'eux et que donc ils vont se bouger pour la planète. Bon, ben ça, nous, non seulement on n'y croit pas, mais ceux qui le font, c'est souvent dans la petite bourgeoisie, et parce qu'ils n'ont pas de problème économique, eux, mais nous, on s'adresse à ceux qui ont des problèmes économiques, ceux qui sont exploités dans leur boulot, et on essaie de leur faire toucher du doigt comment le monde aujourd'hui est organisé autour de deux classes sociales fondamentalement antagoniques, et que leur intérêt, en tant que travailleurs, c'est de renverser l'autre. C'est que l'humanité soit contrôlée par les travailleurs.